Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Alors je ne dérogerai pas à la tradition maintenant bien établie pour apprendre à ceux qui nous rejoignent, bienvenue, et pour rappeler à ceux qui nous sont fidèles, merci, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, parfois improbable, parfois absolument géniale, si possible, dans 24 notes secondes, ces petites images qui bouge sur les grands écrans de nos nuits blanches depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Je ne le fais pas à chaque émission, mais ce jour, je vous rappelle qu'évidemment, le générique de 24 notes secondes est une musique de film, en l'espèce celle d'un petit chef-d'œuvre signé par Blake Edwards quelque part en 1962-1963. En français, ça s'appelait un peu absurdement Diamant sur Canapé. En anglais, ça s'appelait de façon évidente Breakfast at Tiffany's. On retrouvait dans les rôles principaux Hepburn et George P. Hepburn, et la musique de ce film était signée d'Henry Mancini et notamment le fameux Moon River, désormais bien connu. Ce jour, émission monothématique de 24 notes secondes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monothématique? Eh bien, ça veut dire que nous allons parler d'un seul film. Mais quel film? Un film tourné en 1933 par Joseph Mankiewicz et quelques autres, j'y reviendrai, qui réunissait dans les rôles principaux Elizabeth Taylor, Rex Harrison et Richard Burton, qui durait, allez, quelque part comme 4 heures, qui fut un moyen succès, mais qui fut un coup absolument vertigineux qui précipita la faillite de son producteur, en l'espèce la Fox. Oui, mais de quel film s'agit-il? Ah, effectivement, j'ai oublié de vous l'indiquer, Cléopâtre, 1963, Joseph Mankiewicz, certainement l'un des plus grands péplums, ça s'appelait comme ça à l'époque, et même Gladiator, c'est un péplum, je vous l'apprends, jeune génération, un péplum tout à fait réussi. Nous allons y revenir, mais avant d'écouter un premier extrait de la bande originale de ce film, je m'en voudrais de ne pas indiquer que la reine Cléopâtre et ses amours avaient déjà été l'objet avant 1963 de très très nombreux films, desquels j'ai extrait par pure perversité un film de Cécile B. DeMille tourné en 1934 et qui s'appelait déjà Cléopâtre, vous l'auriez deviné, dans lequel on retrouvait des acteurs mâles complètement inconnus, mais surtout la sublimissime Claudette Colbert dans le rôle de Cléopâtre. Comment ça, vous ne connaissez pas Claudette Colbert? Il faut absolument réviser, puisque Claudette Colbert, qui fut l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 30, 40, un petit peu 50, eh bien Claudette Colbert, comme son nom l'indique, oui madame, monsieur, Claudette Colbert était française, née à Paris, même si très rapidement immigrée aux États-Unis. Le film était plutôt bienvenu, même si façon Cécile B. DeMille, ceux qui ont vu les 10 commandements et toutes ces sortes de choses verront de quoi comprendront de quoi il s'agit. J'en bafoue, c'est à cause de Claudette Colbert, pardonne-moi Claudette. Bref, c'était une façon de une sorte de mise en bouche, on dirait, dans les restos chics, pour vous proposer, en m'excusant encore, un premier extrait de la bande originale de Cléopâtre en 1963. Je ne m'excuse pas, par contre, de ne pas vous avoir mentionné que le compositeur génialissime de cette musique, qui n'est pas moins, vous allez en juger, était Alex North. Allez, j'ai assez parlé, Divergence, Cléopâtre, tout de suite!
Thank you.
un premier extrait, le générique en fait de la bande originale de Cléopâtre, une musique d'Alex North pour un film de Joseph Mankiewicz tourné en 1963 et qui fut certainement l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Alors il était au départ destiné à l'être puisqu'il réunissait quelques superstars et notamment Elizabeth Taylor et puis qu'il avait exigé aussi des décors absolument somptueux à l'image de ce que faisait à l'époque Hollywood et quelques autres pour lutter contre la suprématie de cette méchante petite lucarne télévisuelle, mais il le fut d'autant plus que son tournage fut à soi-même un film, une épopée, une aventure, puisque le dit tournage commença le 30 septembre 1960, tiens, j'étais tout petit, sous la direction de Ruben Mamoulian. Elizabeth Taylor était déjà Cléopâtre, mais c'était Peter Finch qui jouait César et Stephen Boyd qui jouait Marc-Antoine. Le dit tournage commença à Londres, qui n'était peut-être pas la ville la mieux indiquée pour y reconstituer l'Égypte ancienne, non pas forcément pour les décors, mais plutôt pour le climat. Il plut beaucoup cet hiver-là, en plus, vous l'avez compris, à Londres. Et du coup, le tournage dut s'expatrier à Cinecittà, à Rome. Les acteurs tristes ne s'entendirent pas, le réalisateur ne s'entendit pas avec l'actrice, bref, à Rome, Ruben Mamoulian fut remplacé en moins d'une semaine par Joseph Mankiewicz, le délicat, tandis que pour des raisons comparables, eh bien, si Elizabeth Taylor, star incontestable de la chose, restait Cléopâtre, eh bien, César se retrouvait être Rex Harrison et Richard Burton reprenait le rôle de Marc-Antoine. Il y a quelquefois des destins un peu contraire, puisque on sait ce qu'il en est. Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui ne se connaissaient pas, se rencontrèrent donc sur le plateau du dit Cinecittà. Ma foi, ils se plurent même beaucoup pendant le tournage et ils le manifestèrent de façon un peu voyante devant des photographes qu'on appelait encore à peine des paparazzi, et le tout parut dans les journaux. Il faut dire que le mari de l'époque d'Elizabeth Taylor n'en fut guère content, on peut le comprendre, cet homme. Mais il faut dire aussi que tout cela fit à la fois beaucoup de publicité au film avant sa sortie, mais que tous ces atermoiements, ces retards, ces changements, etc., coûtèrent extrêmement cher, ce qui fait que quand le film sortit sur les écrans, il obtint un succès certes conséquent, mais qui ne permit pas à sa société productrice, la 20th Century Fox, de rembourser, en tout cas sur l'époque, les frais engloutis dans ce tournage. Allez, je ne peux pas résister, absolument pharaonique, si je ne le place pas maintenant, je ne le placerai jamais. Nous allons évoquer la délicate personnalité de Joseph Mankiewicz et celle beaucoup plus volcanique d'Elizabeth Taylor, mais place quand même à la musique. Nous sommes toujours, vous êtes aussi avec moi, c'est gentil, dans 24 notes secondes, et nous parlons de Cléopâtre 1963, Alex North.
Thank you.
Un magnifique, un somptueux extrait de la bande originale de Cléopâtre 1963, une musique d'Alex North, il me semble, en tout cas à moi qui ai vu le film, qu'on devine la trirème, la galère ou quelque chose de ce genre, qu'on devine les rameurs esclaves en train de trimer, c'est pour ça que je parlais de trirème, le tout évidemment pour porter Cléopâtre alias Elizabeth Taylor dans les bras de son bien-aimé du jour. Elle en eut quelques-uns sous la direction de Joseph Mankiewicz, un cinéaste fort subtil que peu de choses, à vrai dire, prédestiné à devenir le réalisateur de cette super production. Lui qui avait plutôt œuvré dans les films intimistes, les œuvres délicates et sophistiquées. Intimiste, Cléopâtre ne l'était guère, délicate et sophistiquée, il l'était parfois plus qu'on ne l'imagine. Joseph Leo Mankiewicz, né le 11 février 1909 quelque part en Pennsylvanie, qui fait des études très brillantes à l'université de Columbia, qui est envoyé à Berlin pour rédiger des sous-titres anglais de films allemand, qui rejoint Hollywood grâce à son frère Hermann Mankiewicz, qui le fit entrer à la Paramount, où il devient très rapidement scénariste de quelques films tout à fait fameux, puis producteur de films tout aussi fameux, puis en 1946, enfin, il vient à la réalisation, autant dire qu'il était déjà prêt, plus que prêt, à signer en fait une série d'une petite quinzaine de films qui sont presque tous des chefs-d'œuvre. Je regarde ma petite fiche et je ne vois que des chefs-d'œuvre, ou presque, dès 1946 avec son premier film Le Château du Dragon, avec la sublimissime Jane Tierney. En 1947, là encore sublimissime Jane Tierney pour Le Fantôme de Madame Muir, The Ghost and Mrs. Muir, avec ses Rex Harrison aussi et Bernard Herrmann à la musique. En 1948, c'est Chaîne Conjugale, Oscar. En 1950, c'est Eve avec Bette Davis, Oscar. En 1952, c'est L'Affaire Cicéron avec Daniel Darieux et quelques autres. En 1954, c'est La Comtesse aux pieds nus avec la sublimissime Ava Gardner, vous l'aviez deviné. En 1959, soudain l'été dernier, avec déjà Elizabeth Taylor. Bref, un sans faute au quasiment. Certainement l'une des carrières les plus brillantes du cinéma hollywoodien pour un homme qui était, ces films l'attestent, très certainement supérieurement intelligent, peut-être un peu trop intelligent pour le système hollywoodien. Il perdit d'ailleurs quelques plumes après Cléopâtre et ne signa plus que 3 films qui sont des petites merveilles, mais peut-être pas ses meilleurs. Guépier pour 3 abeilles en 67, Rex Harrison toujours, Le Reptile, The Crooked Man en 1969 avec Kirk Douglas, Le Limier, une petite merveille en 1972. Bref, une carrière ultra brillante qu'il nous faudra bien évoquer un jour ou l'autre musicalement dans 24 notes secondes. En attendant ce jour, eh bien, je vous propose d'écouter, j'espère que vous ne vous en lassez pas plus que moi, un nouvel extrait de la bande originale du film évoqué ce jour. Ça s'appelle Cléopâtre, la musique est d'Alex North et je vous le rappelle, petits oubliés, vous êtes sur Divergence FM. extrait quasiment atonal de la bande originale d'Alex North pour Cléopâtre 1963. Alors on apprécie ou pas, mais en tout cas pour une super production, c'était une musique quelque peu dérangeante, quelque peu originale, bien à l'image d'un compositeur auquel, c'est promis, nous consacrerons aussi une autre émission de 24 notes secondes ce jour. Eh bien c'est de Cléopâtre qu'il s'agit, alias Elizabeth Taylor, née à Londres le 27 février 1932. Alors quand on lit l'affiche résumant la vie d'Elizabeth Taylor, en fait c'est pas une vie, c'est 10 vies qu'elle eut cette dame et qu'elle a toujours. Une vie qui commença au cinéma, si vous voulez le savoir, en 1942, donc à l'âge de 10 ans. Ça s'appelait There Was Born Every Minute, je ne l'ai point vu, en tout cas ça ne laissa guère de place dans les mémoires cinéphiles, alors que peut-être se souviendra-t-on qu'en 1943, Elizabeth Taylor fut non pas la fidèle Lassie, mais aux côtés de la fidèle Lassie Messie, vous savez, ses collègues, ils sont si gentils, pour un film donc sorti pendant la guerre et qui fut son premier grand succès. Ma foi, elle avait 11 ans, c'était son deuxième film, excusez du peu. Et dans les années 40, le système hollywoodien l'absorba, elle poursuivit, dit ma petite fiche en tout cas, des études en parallèle, elle n'avait que 11 ans, 12 ans, mais elle tourna un nombre de films absolument incalculable ou presque, desquels je retire dès 1944 Jane Eyre de Robert Stevenson. Je ne suppose pas qu'elle y jouait le rôle de Jane Eyre. On revit aussi Lassie en 1946. On vit en 1949 Les quatre filles du Dr Marsh, inspiré du fameux roman Little Women de Mervyn LeRoy. Et puis dès 1950, elle fut la mariée du père de la mariée sous la direction de Vincente Minnelli. Et elle fut aussi d'un premier grand péplum, Quo Vadis de Mervyn LeRoy, musique de Miklos Rossa. En 1961, on la vit dans Une place au soleil, dans un somptueux maillot de bain, dans George Stevens, et puis, eh bien, on vit Elizabeth Taylor dans un nombre de films presque aussi incalculable que le nombre de ses maris, mariés dès 1950, à l'âge de 18 ans donc, avec Nicky Hilton. Ensuite, il y eut Michael Wilding, ensuite il y eut Michael Todd, ensuite il y eut Eddie Fisher, et c'est ce fameux Eddie Fisher qui découvrit dans son tabloïd préféré les photos du tournage de Cléopâtre, puisque c'est là qu'Elizabeth Taylor rencontra celui qui fut sans doute son unique, son seul amour, ou presque, Richard Burton, qu'elle épousa une première fois le 15 mars 1964, puisqu'ils divorcèrent 10 ans plus tard avant de se remarier une année plus tard. C'est Elizabeth Taylor, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est une star incontestable. En 1963, au moment du tournage de Cléopâtre, elle était au sommet ou presque de sa carrière. Elle avait tourné, excusez du peu, Géant avec James Dean en 56, L'Arbre de Vie avec Anthony Perkins, si je me souviens bien, mais je ne crois que c'est pas ça, en 1957, La Chatte sur un toit brûlant en 1958, Soudain l'été dernier d'après Tennessee Williams en 1959, et donc en 1963, ce Cléopâtre avant d'enchaîner quelques tournages avec Richard Burton. Bref, Elizabeth Taylor était au sommet de sa gloire, le cinéma hollywoodien aussi, et je vous propose non pas de conclure cette émission, mais de la poursuivre. Elle s'achève quand même, ou presque, avec un dernier extrait, sans doute, de la bande originale, signée par Alex North, un des grands compositeurs de musique de film des années 50-60. Retenez son nom, un des grands compositeurs pour la bande originale de Cléopâtre, Divergence FM, 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you and bye bye.